Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 25e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Thibaut de Corta, artiste multidisciplinaire qui a notamment été de la création de l'important fanzine québécois Iceberg avec Henriette Valium et Normand Hamel en 1983. Un fanzine en réponse au magazine Titanic qui, d'une certaine manière, leur barre à la route. Après l'avoir ressuscité au tournant des années 90 dans une toute nouvelle formule, voilà que la publication a récemment fait l'objet d'un numéro anniversaire. Thibaut de Corta, salut.
Salut.
Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui te reçois au micro, mais c'est quand même toi qui m'accueille dans ton antre.
Eh oui. Merci, en tout cas, pour l'intérêt.
Évidemment, je te reçois à l'émission puisque je veux qu'on parle ensemble d'Iceberg. Hein. Tu es un des instigateurs de ce, j'oserais dire, ce célèbre fanzine qui est devenu par la suite un magazine. Et donc, si on en parle aujourd'hui, c'est que tout récemment, tu as publié un Iceberg intitulé Remix.
Ouais.
Et donc voilà, je voulais qu'on parle ensemble d'Iceberg, dont le slogan était « Vos yeux trempent dedans ».
Ouais, c'est Normand Hamel qui a trouvé ce slogan-là.
OK. Est-ce que c'était en référence à... C'était un savon, ça,
oui, vos... c'était Palmolive.
Palmolive.
Vos doigts trempent dedans.
Ouais.
C'était pour dire comment il était doux à l'époque, dans la publicité originale.
Ah, c'est drôle, parce que pourtant, Iceberg, si on... Moi, j'ai l'impression, comme lecteur, que c'est tout sauf doux. Hein? Il y a quelque ouais. chose d'assez abrasif.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, là, on était jeunes. Hein? Écoute, moi, j'avais 24 ans. Je pense que Valium, c'est pareil. Patrick Henley et Normand, on était des amis, quoi. En fait, on zonait. Hein? Bon, on fumait des joints... Et puis aussi, moi j'avais un vieux rêve d'enfance de bande dessinée, ça m'a toujours habité. Tu sais, quand tu as été nourri jeune, avec des hebdomadaires Tintin, Pilote et Spirou chaque semaine, dans ma famille, mon père il les achetait puis on les dévorait, puis ça m'est resté. Tu sais, j'ai un souvenir, moi, je me demandais comment ils faisaient des couleurs à plat.
Ah ouais.
Je fantasmais là-dessus, je disais, waouh, j'aimerais ça être capable de faire ça, mais évidemment, je ne comprenais pas les couleurs. Et puis, toujours est-il que... Puis, si tu veux, c'est le début des années 80 aussi, c'est bon, il y a eu le Parti québécois au pouvoir,
ouais.
qui a donné un peu de sous à droite à gauche, entre autres à Cros.
Ah oui, et Cros avait obtenu une subvention de 80 000 $ pour les trois premiers numéros en 79.
Ouais, ouais. C'était quand même considérable, et c'était bien, là, bravo, là, moi je pense que c'est une bonne chose. Ceci dit, nous, on était un peu révoltés parce que, bon, moi j'avais amené des dessins, je pense que c'était à Pierre Fournier à l'époque, qui était rédacteur, je suis plus certain.
Oui, c'était Pierre Pourrier.
Et puis, en fait, j'avais seulement une fin de non-recevoir. Là, alors, ça m'avait évidemment, jeune homme de 24 ans, révolté, tu comprends. Et puis, on a appris par la vente, c'est Paul Rossini qui nous a appris que Cros lançait Titanic. Le magazine de bande dessinée, qui savait que c'est une belle aventure, en fait, rétrospectivement, là, bravo, là.
Oui, parce que pour remettre les choses en contexte, et d'ailleurs, j'ai fait une erreur, là, le rédacteur en chef, c'était pas Pierre Fournier, mais Pierre Huet, évidemment,
ah, oui,
au magazine Cros.
Okay. Ouais.
Et donc, Titanic, hein, c'est le retour aux premiers amours de Jean Curtubis, hein, qui oui. était le grand gourou
que
de Cros.
Beaucoup, d'ailleurs,
et d'ailleurs, on va revenir, hein, parce que ta première rencontre, j'ai lu, ça remonte à Télé-Chrome.
Ouais.
Ouais, mais on va y revenir à
ouais,
ça.
Ouais.
Et donc, à l'époque, bon, Jean Curtubis, dans les années 70, cofondateur de l'Hydrocéphale entêté, qui a lancé l'Hydrocéphale illustré, le journal, et puis Les aventures du Capitaine Québec, et puis plein d'autres projets, l'Illustré numéro 8, entre autres. Bref, c'était un grand... c'était un ardent défenseur de la cause de la bande dessinée québécoise.
Ouais, puis c'était un... Je dirais que c'était un amoureux, en fait.
Oui.
Carrément.
Oui, oui, oui. Parce que c'était un auteur aussi. Hein. C'est à lui qu'on doit notamment les strips du Sombre Vilain, là, qui
ouais.
ont été publiés dans le journal Le Jour.
Ouais.
Et donc, donc, il revient, en quelque sorte, à ses premiers amours. Lance Titanic, hein, un magazine entièrement consacré à la bande dessinée québécoise qui connaîtra 12 numéros.
Ouais.
Qui était piloté par Garnot, hein, Michel Garnot.
Ah oui.
Et Henriette Valium, d'ailleurs, oui. a été des trois premiers numéros.
Ben oui.
Et malheureusement...
Ce qui est un exploit, en fait.
Ben, en fait, oui, il ne faut pas s'en désoler, au contraire, il faut être très, très heureux,
c'est
mais...
incroyable quand tu y penses, parce que...
Mais en même temps, c'est pas étonnant non plus qu'il y ait eu un petit accrochage avec la rédaction de Crow qui a mené à l'expulsion, en fait, de Valium des pages de Titanic. Et c'est dans cet esprit-là que vous... Je veux dire, quelque part, Iceberg, c'est une réponse directe à Titanic.
En fait, oui, tout à fait. En fait, donc, c'est Paul Rossini qui est un illustrateur qui maintenant, je crois qu'il s'est retiré de la profession, mais qui est arrivé parce que, bon, Normand et Patrick habitaient ensemble à l'époque sur la rue Waverly, dans le coin de Saint-Viateur, je crois. Et moi, je le fréquentais assez souvent. Bon, et un jour, Paul arrive et il nous annonce ça. Et là, tout de suite... Moi, j'ai... d'ailleurs, le premier Iceberg, c'est pas un Iceberg, c'est un Sortie 13, oui, qui est un album Iceberg. Et je me suis vendu une histoire, je sais plus, là, 12 pages, ou ça, 13 pages. Et j'ai demandé à Normand et à Patrick s'ils voulaient contribuer. Et Patrick avait déjà fait Vajorbine 14.
Ouais.
Et Normand, lui... alors, Normand, c'est différent parce que c'est pas un amateur de bande dessinée. Il trouve que c'est un sous-art pour lui, c'est ça. Et c'est plutôt un chercheur visuel, Normand, qui a beaucoup de talent, d'ailleurs. Et mais il a accepté de faire des petits dessins quand même, parce qu'il a un esprit caustique assez rigolo quand même. Et donc, on a sorti ce numéro-là. Et il y en a 4 autres qui ont suivi dans la même année, jusqu'au dernier, numéro 5, qui est le célèbre numéro avec le Tintin.
Avec la couverture de Coke en stock, oui.
Ça a débrouillé très vite. On a décidé qu'on se donnait des prénoms féminins pour les hommes et le contraire pour les femmes. Par exemple, Obama s'appelait Ringo le Balafre.
Oui. Ouais. Et donc, Henriette Valium vient de là.
C'est ça.
Charlotte Béton.
Ça, c'est Normand.
Normand.
Et moi, j'étais Violette Bristol.
Oui, voilà.
Même si, en fait, j'ai signé la couverture Gustave Léant. Ça, c'est encore un... Gustave à cause de Gustave Doré, parce que j'aimais bien les hachurer. Puis Léant, parce que c'est un terme de...
Ouais.
Et ben, en fait, c'est parti, en fait, c'est ça, sans but précis. En fait, j'irais jusqu'à dire pour exister, tout simplement. T'sais, parce qu'on ne sentait pas qu'on avait de la place... nulle part.
Il faut dire aussi que quand on met la main sur les premiers exemplaires, les premiers numéros, c'est quand même assez iconoclaste comme approche graphique. Là. Oui, il y a de la bande dessinée, mais pas que. Hein.
Non, c'est une approche en effet pas rebutante, mais underground quoi, de l'époque.
Oui, de contre-culture. Puis vous avez vraiment, chacun d'entre vous, des personnalités très différentes aussi. Oui. Là.
Absolument.
Donc,
d'ailleurs, il y a eu des frictions. Hein. Après le numéro 5, c'était fini parce que nos personnalités étaient justement trop différentes. Patrick, lui, c'est un bosseur, c'est un travailleur fou, là, qui est acharné, qui n'arrête pas. Moi, j'étais pas comme ça, j'avais pas cette approche-là. Je travaille aussi, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, je suis très dispersé dans plein de trucs, ce qui fait que ça ne paraît pas toujours que je fais quelque chose. Mais je suis toujours occupé, j'ai toujours quelque chose. Mais sauf que j'oscille entre l'écriture, la peinture, la musique, la BD, tout ça dans un genre de fouillis. Mm-hmm. C'est comme ça que je suis. Bon, j'accepte maintenant, à l'âge que j'ai, que je suis comme ça. À l'époque, je ne me rendais pas compte. Moi, on faisait vraiment les choses, pas sans réfléchir, mais pas loin, en fait.
Donc, on peut dire que c'était une structure... Mais en même temps, ça n'en était pas vraiment une.
Non, il n'y avait aucune structure.
En fait, il n'y avait pas de pilote à bord, là.
Pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui décidait, je veux dire, ça me fait... Je peux l'avouer aujourd'hui, mais c'était souvent le chèque de BS qui décidait que ça sortait ou pas, parce que fallait aller photocopier des exemplaires, puis il n'y en a jamais eu plus que 100. Par numéro, je me demande même s'il n'y a pas des numéros, il y en a eu moins.
C'est ce qui fait qu'ils sont pratiquement introuvables
c'est
aujourd'hui.
Ça,
là. Et d'ailleurs, tu parles du chèque de BS... À ce micro, j'ai déjà reçu Julie Doucet, et on parlait de ça. Et en fait, ça a été comme la première forme au Québec de subvention pour les artistes, de dire, je deviens une assisté sociale et je me consacre pleinement à mon art.
Même si c'était la honte, en fait, parce que pas dans le milieu underground. Le milieu underground, c'était pas honteux, mais c'était honteux face à la société, évidemment, parce que parasite, parce que ci, parce que ça. Je peux comprendre, mais en même temps, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est un peu malheureux, parce que quand on... En fait, l'aide sociale, c'est une aide sociale. Il faut que ça existe. Mm-hmm. Si on est une société évoluée, on doit avoir de l'argent pour des gens qui en ont moins. Oui. Parce que les gens vont dire profiteurs et tout ça, mais il faut savoir que je pense que la majorité des gens sur l'aide sociale sont des gens qui n'ont pas le choix. Soit des mères monoparentales, soit des gens avec des problèmes mentaux, mais certainement pas des profiteurs, en tout cas.
Non, on a besoin de ce filet social-là, c'est clair.
Absolument.
C'est clair. Je veux te citer.
Ah bon?
C'est un très beau texte que tu as publié dans Le Trip numéro 9 en 2016, donc aux éditions Trip, qui était piloté par Marc Tessier, oui. Alors, dans un texte de 3 pages qui s'intitule Iceberg, le grand Jacques, tu dis, et tu conclus ton texte en disant, « Tu sais, Jacques, notre iceberg n'a jamais pu couler ton Titanic et encore moins ton croc. Mais grâce à toi, j'avais sans le savoir trouvé un guide. »
C'est vrai.
Parce qu'évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire de la bande dessinée québécoise, ben, si on fait 1 plus 1, on comprend tout de suite qu'Iceberg, c'est une réponse directe à l'endroit du refus de Titanic.
Ben,
Titanic, à moins d'être vraiment un grand, grand rêveur, rétrospectivement, on peut considérer qu'on savait que c'était voué à l'échec, là. D'une certaine manière, malheureusement, parce que... Et c'est pas par manque de talent et de matériel, mais c'est parce que cette revue-là, elle n'a pas forcément rencontré son public.
C'est ça,
Et on sait que... Puis on va en parler plus tard à quel point ça coûte cher, produire un magazine, mais ça a toujours coûté cher.
Oui. Mais je pense qu'il y a aussi une question... Là, c'est délicat ce que je veux dire, mais je vais essayer de l'exprimer correctement. Le public québécois qui s'intéresse à la bande dessinée a été habitué à des canons, que ce soit Astérix, que ce soit beaucoup de... Alors, je ne dis pas que dans Titanic, il n'y avait pas du talent, il y a énormément de talent, mais je pense que la direction n'était peut-être pas assez pointue. Peut-être qu'on a trop visé en général le lecteur de BD, mais le lecteur de BD québécois est un lecteur cultivé, est un lecteur qui connaît son affaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, c'est sûr, la vaste majorité des gens ne lit pas de bande dessinée, ne connaît pas au Québec. C'est pas comme en Europe.
Oui, c'est pas la même culture.
La portion des gens qui en lisent, eux, ils sont difficiles.
Mais si on remet les choses dans le contexte, je parlais de l'hydrocéphale entêté tantôt avec Jean Curtubis, Gilles Desjardins, Pierre Fournier et compagnie. C'est sûr que les années 70, la production locale était essaimée dans Mainmise, dans Prisme, dans les journaux aussi, notamment dans les strips du journal Le Jour. Et donc, ça donnait l'impression dans les années 80 que la tradition québécoise était jeune. Or, on apprend évidemment avec le temps que de la bande dessinée au Québec, il s'en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça.
Oui, moi j'ai appris ça dans les dernières années, en fait.
Ben, c'est fou parce que ça a été une des marottes de Jacques de Jacques Urtubise, de Jacques Sanson aussi, là, mais de Jacques Urtubise, parce que lui, il a découvert au début des années 70 l'existence d'Onésime d'Albert Chartier.
Parce que
c'est un de ceux qui a fait découvrir, qui a remis ça, qui a fait découvrir ça à un lectorat urbain, parce que c'était publié à l'époque dans le Bulletin des agriculteurs. Moi, j'ai grandi à la campagne. Donc, moi, je connaissais Onésime. Mais les gens en ville ne connaissaient pas Onésime. Et puis, toutes les séries qui ont précédé, Timothée, la famille Citrouillard et tout ça. Et donc, c'est pour ça que quand tu dis que une des raisons de la disparition soudaine de Titanic, c'est le rapport à sa propre culture de la bande dessinée québécoise. C'est sûr que tu souffres de la comparaison quand tu mets un Titanic à côté d'un Pilote ou d'un Tintin à l'époque qui est encore publié ou d'un Spirou. C'est sûr, parce que les gens ont baigné dans cette culture classique franco-belge.
Ouais.
Mais ce qui est fou, c'est qu'avec le recul, quand on relit Titanic aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a matière à émerveillement et on voit des talents éclore. Et c'est la même chose pour Iceberg. Il y a une telle... Pour moi, il y a une telle charge là, dans la... Puis on reviendra à la Renaissance, la deuxième mouture, tout ça. Mais dans la première mouture, il y a une telle charge. Il y a une jeunesse, évidemment. Mais c'est une charge de front. Et il en fallait du front pour appeler ça quand même Iceberg.
Ouais, avec le recul, c'est sûr qu'on était les petits tannants. Parce que je sais que, par exemple, Pierre Huet, encore aujourd'hui... Il me regarde un petit peu de travers. Mais je suis correct, tu sais, moi, je veux dire. J'assume qu'on ait pu être tannant. Parce que je me rappelle, entre autres, qu'on avait squatté un... Ça, c'était trop, cette affaire-là. Il y avait un lancement. Parce qu'eux, ils faisaient des lancements. On a copié sur eux, en fait.
Oui. Donc, ça, les lancements, les lancements de presse aussi, beaucoup. Là,
c'était un lancement d'un numéro de Crow, il me semble, qui était au Club Soda, à l'époque, sur Parc.
Oui.
Et on avait appris... je ne sais plus comment, qui allait avoir, qui avait de l'alcool et tout ça. Puis avec Normand, on avait une mission à Radio Centre-Ville qui était n'importe quoi. Et on avait dit, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la rue, tout ça, venez au Lance-Fancro, il y a de la bouffe.
Non.
Vous
avez... Oh, mon Dieu.
Puis Nicolas est arrivé, en plus, au lancement, on squattait le lancement un peu. Puis, curieusement, le gars qui était au bar, qui servait les gens, à la fin, il nous donnait carrément les bouteilles. Fait que ça se peut que ça ait laissé des traces. mais bon. Non, mais on était les petits amants, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, qu'est-ce que tu veux, des fois, c'est comme ça qu'on s'en sort aussi. Parce que quand tu n'as pas l'impression d'avoir de voix ou de... Puis, il y avait tout un milieu, hein, je veux dire, c'est Iceberg, mais c'est Iceberg au milieu des peintures en direct. Ouais. Parce que c'est né, en fait, tout ça. Une fois que ça a été fait, il y a une couple d'événements qui sont arrivés en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait un peintre qui s'appelait Jean-Pierre Gagnon, qui avait organisé au Musée d'art contemporain, à la Cité du Havre à l'époque, une exposition qui s'appelait « Entre la magie et la panique ». Et nous, on s'était invités, avec notre petit numéro d'Iceberg, je ne sais plus quel numéro, là, en tant qu'exposant. Et le dimanche après-midi, un dimanche comme ça, François Gour arrive et dit « Tout le monde qui est ici, venez au Foufoune, tout est gratuit aujourd'hui. » Et c'est là que l'aventure des Foufounes a commencé avec les peintures en
bleu. Ah bon? Ouais, avec donc on doit ça à François Gour,
oui,
qui est un esprit libre, hein, François?
Ah, oui, François, ouais. C'est une dynamo. Hein.
Qui n'était pas du parti rhinocéros, c'est... d'ailleurs, oui. Hein? Oui,
absolument.
Tu sais, là, je fais une parenthèse, mais tu sais qu'il a eu un boulot, ça n'a pas duré très longtemps, semble-t-il, mais il avait été engagé par le Cirque du Soleil dans les bureaux pour amuser les employés.
Oui.
J'aurais payé cher pour voir, passer une journée,
ouais,
et voir François Gour.
Mais en même temps, c'est un talent, hein. Fait que je suis certain qu'il a dû faire quelque chose pour mériter la direction, je ne sais pas trop. Mais...
Sûrement, oui.
Parce que c'est un anticonformiste, François.
Ah, c'est un électron libre, ça c'est clair.
Mais qui a une personnalité très forte,
ouais,
et qui est capable de générer des choses.
Qui est un rassembleur, en fait.
Oui,
Gour, c'est un rassembleur.
Exactement.
Je me souviens, moi, à l'époque, jeune acteur, je participais... c'était... voyons, c'était à laquelle salle, non? En tout cas, c'était les spectacles, on avait 20 heures au Lion d'Or. C'était cabaret.
Ah, ben.
C'était La Langue à Terre. Donc, on avait 20 heures pour monter un spectacle de 20 minutes. Et c'était présenté le dimanche soir à 20 heures. Et donc, la veille, le samedi à minuit, on se réunissait dans un bar, pas loin de chez toi, ici, sur Saint-Denis,
ouais,
qui n'existe plus, et on se faisait donner le thème et la contrainte. Et on avait, à partir de là, 20 heures pour monter 20 minutes. Et François Gour était de l'équipe, évidemment, de cet événement-là. Mais ça me fait un peu penser, justement, à l'aspect éphémère, parce qu'il n'est rien resté de ces expériences-là, tout comme à l'époque, dans les années 80, de l'exposition dont tu parlais,
ouais,
et du fait aussi que quand on publie, quand on tire à peine une centaine d'exemplaires d'un fanzine, on parle...
Ouais.
C'est éphémère,
là. Performance,
là. Oui, voilà. Ouais. Mais donc, ça a quand même traversé les époques. Ce qui a contribué à ça, entre autres, c'est que tu as, au tournant des années 90, tu es revenu avec une nouvelle mouture,
oui,
de Titanic. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé... de Titanic, excuse-moi, ouais, de Iceberg, oui. Oui.
En fait, pour être tout à fait honnête, parce que, alors tu vois, ce numéro-là, en fait, c'est que ça, c'est un genre de cri de désespoir que j'ai sorti en 86, je ne me rappelais même plus. C'est toi ou c'est Jean-Pierre Damien, je ne sais plus qui me l'a remémoré. Mais toujours est-il que j'ai eu une période qu'on peut qualifier de sombre, mettons de 88 à 90. C'était pour moi. Mais. Par miracle, moi, l'art m'a toujours sauvé quelque part, m'a toujours pris par la main pour me sortir de situations pas toujours reluisantes. Et en l'occurrence, faut dire que j'avais des relations, des gens qui avaient confiance en moi, ça m'a aidé. Et puis, Obama, à qui je dois ça quand même, qui avait un local sur la rue Coloniale et qui m'a permis d'installer une table. Et moi, pour me sortir de la situation difficile dans laquelle j'étais, j'ai vu qu'une solution, en fait, c'était de revenir à mes premières amours, qui était ça. C'était Iceberg. Et j'ai commencé, donc, le premier numéro est photocopié comme l'ancienne formule.
Oui.
Et j'ai fait un lancement à un endroit qui s'appelait le Building Dance, qui est 77 Mont-Royal, 77 Mont-Royal
Est.
Oui.
Ouais.
Et il y avait 300 personnes. J'avais réussi à avoir de la belle gueule en baril que je donnais. Bon, ça a été un succès. Et de là, il y a un éditeur que je peux nommer aujourd'hui, parce que je pense qu'il s'est retiré, c'est Bruno Gauthier d'InfoPresse, qui m'a rejoint, qui m'a dit « Thibault, si tu veux, moi je t'imprime et je te distribue, toi tu t'occupes du reste. » Et ça a duré 7 numéros suivants,
ouais.
Jusqu'au dernier.
Parce que c'est-à-dire que les deux premiers numéros de la deuxième mouture avaient un format fanzine. D'ailleurs, il y avait en encart, à l'intérieur, un comics. Dans le premier numéro, c'était un comics de Julie Doucet.
Ouais.
Dans le deuxième, de Diane Obomsawin, d'Obom, sa fameuse parodie de Archie qui s'intitulait « À chier ».
Ouais, c'était très généreux. En fait, c'est ça que je voudrais dire, en fait, c'est que... Parce que tout seul, j'aurais pas pu faire ça. C'est, s'il n'y avait pas eu les auteurs, la bonne volonté des auteurs, parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas une scène, là, j'aurais pas pu faire ça. Là. C'est des gens comme... Même quelqu'un comme Grégoire Bouchard, qui maintenant, il me remercie. Mais c'est moi qui le remercie, tu sais, de m'avoir... Ouais. Moi, Grégoire, c'est pas compliqué, il arrivait au local avec ses planches, là, puis j'étais un gamin de 10 ans, là, tu sais.
Oui, mais c'est une classe à part.
Ah non, mais Grégoire, c'est fou. Là.
Ouais.
Et puis, ce qui est fou, quand tu regardes aujourd'hui ce qu'il a rendu, quand même, parce que j'ai pas toujours aimé ses contenus, mais là, son dernier livre, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais.
C'est incroyable. Là, il a atteint quelque chose, ce gars-là. Bon, lui, mais Cédric Lotte aussi, que j'ai croisé un jour, qui travaillait à ce moment-là dans la pub, l'exubérant Cédric,
ouais.
Tu sais, mais qui a un talent.
Ah, oh, c'est un talent immense, immense.
C'est fabuleux, ouais. Ce gars-là. Et ben, alors, c'est juste pour nommer ceux-là, mais il y en a eu beaucoup. Alain Renaud.
Dont la production est fort intéressante. Là.
Ouais.
Alain Renaud, c'est une facture graphique, c'est
oui.
Une signature graphique qui est très, très particulière. Mais c'est...
Oui, parce que c'est un gars qui ose. C'est parce que c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. C'est que ce que je trouve. Une des différences que je trouvais à l'époque entre la bande dessinée européenne et ici, c'est que je trouvais que ici, c'était assez convenu quand même. Il y a peu de gens, je trouvais, qui osaient. Sortir de la forme, mais il y en avait, là,
ouais.
Parce que j'ai pas la prétention de connaître tous les auteurs qu'il y avait à l'époque, là, mais ça, c'est un autre truc aussi, c'est que depuis quelques années, là, je regarde la richesse, peut-être ça a rapport à l'école de bande dessinée là, qui est en Outaouais, mais il y en a maintenant des auteurs, c'est fou, là. Les auteurs et les autrices. Là, c'est...
Ah oui, ben, y a Luco qui offre
ouais,
la formation là, universitaire en bande dessinée, mais il y a aussi Jimmy Beaulieu. Qui
ouais.
Anime des ateliers au Vieux-Montréal et au Cégep de Rosemont, qui contribue aussi à justement former des nouvelles générations d'autrices et d'auteurs. Ouais.
Tu vois, mais en même temps, c'est ça que je disais il n'y a pas longtemps, il y a un truc, à moins que ça se peut que je me trompe, mais je n'ai pas encore vu une école ici distincte. C'est-à-dire que oui, je vois des auteurs originaux, tout ça, hein, mais je ne vois pas... Tu sais, comme on dit qu'il y a une école de Marcinelle, une école de Pilat, tout ça...
Oui, mais je pense que c'est dû au fait que le Québec, c'est le carrefour de la bande dessinée anglo-saxonne, francophone et aussi asiatique.
Oui, c'est vrai.
Que c'est une convergence, en fait, et que encore là, on pourrait parler de production de bande dessinée francophone et anglophone, parce que encore là, c'est deux univers.
Ben oui.
Tu sais, la bande dessinée québécoise, pour moi, elle est bicéphale à plusieurs niveaux, dont celui-là.
Ben oui. Deux solitudes, quoi.
Oui, mais l'histoire nous rappelle que dans les années 90, il y avait des vases communicants quand même entre la contre-culture francophone et anglophone. Il y avait des
ouais.
Passerelles, il y avait des ponts,
ouais,
des mains tendues.
Ouais.
Ce qui... Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec Internet, avec l'auto-édition, avec la mondialisation, c'est plus ouvert.
Ouais.
Mais tu sais, on parle d'Iceberg et on parlait de Titanic et de Crow, parce qu'il faut le redire, encore une fois, à l'époque, Crow était à ce point imposant au Québec que si on voulait être publié, être vu et lu à grande échelle et même être payé
ouais.
Pour faire ce travail-là, ben, il y avait Crow, puis il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives.
Non, c'est vrai. Ben, d'ailleurs, Cédric me faisait remarquer un truc à un moment donné, c'est que lui, ce qu'il regrettait, c'est que Crow soit presque exclusivement tourné vers l'humour. Parce que lui, c'est pas ce qui l'intéressait. Lui,
mm-hmm.
Bon. Alors ça, je sais qu'il avait une petite...
Mais Titanic a été une réponse à ça, parce que
ouais.
Moi, je me souviens très bien de bandes d'André-Philippe Côté, de Gabriel Morissette, qui allaient vraiment dans la science-fiction.
Ouais, ouais, ouais.
Et on n'était pas... Il y avait des bandes humoristiques dans Titanic. Il y avait Gilles Lajeune, il y avait
ouais,
Gaboury.
Ouais, ouais.
Oui. Mais il n'y avait pas que ça. Mais effectivement, c'est sûr que Crow a monopolisé beaucoup la bande dessinée à caractère humoristique.
Mais ils ont probablement bien fait aussi, parce que pour le coup, c'est peut-être une très bonne idée, dans le sens où là, tu sais ce que tu cibles. Mm-hmm. Puis les gens adorent l'humour. Ça, c'est la preuve en est, l'industrie de l'humour. Bien qu'il y ait une nouvelle hier, puis il y a un petit bémol maintenant, mais l'industrie va quand même bien.
Ah, oui, c'est une industrie qui est très, très forte au Québec. Oui, et d'ailleurs, Crow a largement contribué à ça.
Je pense que oui, il y a pas mal de gens qui sont passés.
Oui, et donc, c'est vrai que à cette époque-là, mais même dans Titanic, il y a de l'humour. C'est beaucoup plus abrasif par moment, mais il y a quand même... Mais pas que, en même temps. Ouais. Et là, tu parlais, tantôt, t'évoquais Cédric Lott, Grégoire Bouchard. Ce sont des auteurs qui arrivent dans la deuxième mouture, au format magazine. À partir du moment que là, tout à coup, on tombe dans un magazine qui est distribué à grande échelle, là, tout à coup, il y a Obama aussi avec son super strip Rose Beef. Ah, c'est-tu bon, ça?
Parce qu'elle a un esprit de dérision qui était cool. C'est de la poésie, mais dérisoire.
Ah, c'est vrai ça. Oui, oui, de la poésie, oui, de poésie dérisoire. Pour peu que ça soit un genre, c'est le sien, assurément.
Oui, c'est ça.
Puis il y a même eu. Puis là, j'ai fait l'exercice de relire une xième fois avec grand plaisir mes exemplaires de Titanic. Mais il y avait aussi quelques transfuges de Crow. Hein? Il y a eu Jean-Paul Aide, il y a eu Brochard.
Mais alors voilà, ça c'est des gens qui m'ont rendu service en fait. Je pense. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça, parce que. C'est vraiment des gens qui ont été généreux. Il y a Éric Godin aussi, Brochard aussi.
Zilon.
Brochard qui, malheureusement, a lâché la bande dessinée parce que je crois qu'il trouvait ça trop. Parce que c'était un perfectionniste.
Quel talent.
Ah, lui.
Quel
mais
talent.
Mais je pense qu'il prenait trop de lui-même. Si tu veux. Parce que c'est quelqu'un m'a fait remarquer dernièrement. Il est comme ça dans son métier aussi, parce qu'il est graphiste. Hein, qu'il est trop perfectionniste, en fait. Il va mettre beaucoup de temps sur quelque chose pour être le souci du détail.
Et tu sais que la bande dessinée, il y a un moment où... Ça peut nous consumer en création, mais il y a un moment donné où il faut, comme dans toute forme d'art, il faut abandonner le chantier.
D'ailleurs, tu parlais de différence des personnalités, mais moi, j'ai un aveu plate à faire, mais moi, Valium, j'ai jamais réussi à pénétrer son univers. Moi, ça m'a toujours rebuté un peu. Ce qui est dommage, parce que je pense que c'est peut-être pas un génie, mais pas loin. Je pense que c'est très, très original, tout ça, mais je parle de mon goût personnel. Alors, mais par contre, je l'ai quand même publié dans la deuxième mouture, parce que c'est Valium.
Oui.
C'est incontournable. Tu ne peux pas passer à côté de Valium.
Et non, et là, tu as publié quelques strips là, parmi ces parodies notoires de Tintin. Là. Ah oui, c'est incroyable.
Oui, mais ça, c'est lui aussi. Hein, parce que voilà, la première mouture de l'Iceberg, autant c'est moi qui ai un peu lancé l'initiative, autant très vite, Valium... Il a mis la main à la pâte aussi. Comme je pense que ce numéro-là, c'est lui qui l'a payé. Celui du Tintin. Là.
Ah oui, hein?
Je pense que oui. C'est à mon souvenir. Puis tu sais ce qui est fou aussi, mais ça, je l'ai déjà dit, c'est que au lancement de ce numéro 5, donc, qui jouait comme groupe, les Sneakers, qui était à la batterie, Dédé Fortin. Mais je ne le connaissais pas à l'époque. Je ne savais pas qui c'était. C'était bien avant les couleurs, 1984.
Puis lui, il s'intéressait, Dédé Fortin, bon, évidemment, au cinéma, à la bande dessinée, à l'animation.
Et ce qui est fou, c'est que je l'ai croisé, tout en ne le connaissant toujours pas, début des années, écoute, quand il faisait son cours de Perfo 30 à l'université, tu sais, il faisait une vidéo, vidéoclip par jour.
Ouais.
Par hasard, il y a une fille qui s'appelait Claude Hamel, dont le nom d'artiste était Vénus Urbano, qui m'a demandé, elle a dit, veux-tu un rôle dans mon vidéoclip? Tu vas jouer le dragueur dans un bar. Je dis, oui, ça va me faire plaisir. Qui était le réalisateur d'Eddie Fortin? Mais je ne le connaissais toujours pas. Mais c'est juste pour dire que tu croises des gens.
Ah, c'est les vases communicants. Hein?
Oui, c'est... et ça, c'est, ma blonde a du mal à me croire quand je lui dis qu'à cette époque-là, la rue Saint-Denis, là, c'était vivant, incroyable. Là, il se passait tellement de choses. Et là, tu parlais de vases communicants, et en effet... C'était pas juste francophone, parce qu'il y avait la main pas loin, puis il y avait un genre d'énergie, hein, parce qu'il y avait les foufouines en bas, il y avait le cargo ici, un autre là. Il y avait de la vie, toujours, là, mais moins, disons, où on est en ce moment.
C'est sûr qu'on est à une époque où les médias sociaux n'existent pas, où là, tout à coup, faut aller dans le monde. Hein?
Oui, mais ça, c'est un truc dont je suis très, très fier, par exemple. J'avais du bagou, hein, parce que j'ai réussi à intéresser des émissions de télévision, des journaux.
Des commanditaires aussi, là.
Ouais, mais les commanditaires, c'était... c'était pas toujours très payant, disons.
Mais sur les quatrièmes de couverture, il y a souvent des pubs de Musique Plus à l'époque. Là,
oui,
Musique
ça,
Plus,
c'était... Alors ça, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a Pierre Parent, qui était vraiment un chic type, il m'a dit, écoute, on n'a pas d'argent pour de la pub. Il dit, par contre, j'ai un budget illustration. Donc, une des pubs, c'est sur une deuxième, la couverture de Cédric. Là, le,
ouais.
Derrière, c'est un dessin que j'ai fait. Et Pierre Parent m'a donné 500$. Et donc, c'était un tour de passe-passe pour me donner de l'argent quand même. Et représenter. Puis après, j'ai eu l'appelletrie, le personnage créé par l'équipe de Langlois, le
Ah oui.
Image.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est, je ne sais plus comment je l'ai eu. C'était un échange, je pense que c'est avec Infopresse qui m'avait refilé ça, mais il n'y avait pas d'argent, il me semble, associé à ça. Et puis, vers la fin, il y a eu mon ami Baudouin Ward, qui est propriétaire de Publicité Sauvage, qui a été brièvement associé à Iceberg vers la fin et qui avait réussi à aller chercher une pub pour un film. Qui était français, qui était distribué.
Ah oui, ben oui, avec oui, oui, avec le fils de Depardieu, on voit la pub. Oui, voilà, 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 voilà. Et Jean Rochefort, ouais. Je me souviens pas du titre,
c'est
mais oui.
Mouvant, je pense.
Ah, ça se peut, oui. Autre transfuge aussi, puis j'en reviens à Cro, ou en fait anormal, gratte.
Ah oui.
Parce que vous avez, ben t'as, donc dans le magazine, repris, t'as continué les strips de Rumble Bill,
ouais.
Qui était un des personnages, une des figures emblématiques du magazine Anormal, qui était un autre magazine.
Ça, je connaissais moins.
Bon, alors, ça a été lancé par Cro. Titanic, c'est 83-84.
OK.
Anormal, c'était une réponse à Safari.
Ah, d'accord.
Et c'était un magazine méchant,
ouais.
Mais pour les ados.
OK.
Et ça a été un magazine qui a duré très, très peu longtemps, là. C'est
ouais,
quatre numéros.
Vu, ouais.
Et là, c'est Pierre Fournier qui pilotait, okay. Non pas Pierre Huet. C'est Pierre Fournier qui était à la barre de ce magazine-là. Urtubiz, il avait dit, OK, tu vas t'occuper de ça. Et il faisait ça dans le sous-sol des bureaux de Cro le soir. C'était top secret.
Okay.
Tout le monde travaillait avec des pseudonymes. Et Rumble Bill, c'était un des personnages, un des porte-étendards de ce magazine-là.
Il avait beaucoup de talent. Je ne sais pas s'il fait encore ça aujourd'hui, mais... Beaucoup de talent et un style très personnel.
Ah oui,
très puis... clair, très lisible.
Ouais. Avec beaucoup, mais quand même avec une swing, un mordant
ouais,
aussi.
Ouais, ouais.
Puis Rumble Bill, c'était l'espèce de personnage de skateboard
ouais.
qui expliquait comment faire des choses bêtes.
Ouais, c'est ça.
Et quand même, faut le dire, là, dans les pages de la nouvelle mouture d'Iceberg, il y a quand même eu. Les débuts de Bob Leclerc, le oui. fameux personnage
alors,
de Grégoire
ça,
Bouchard.
C'est ça. C'est, ça. Ouais. C'est qu'en fait, Grégoire, je pense qu'une des raisons pourquoi il me remercie, c'est que ce qui est fantastique quand tu publies, c'est que tu peux voir ce que tu as amélioré. Tant que ta planche n'a pas été imprimée, tu ne vois pas, tu n'as pas de dissidence. Mais dès que c'est imprimé, ah, là, tu vois comment ça sort, tu vois ce que tu peux faire de mieux. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il a apprécié, c'est que, parce que je pense que je l'ai publié dans quasiment tous les numéros.
Oui. Oui, pratiquement. À partir du format magazine,
c'est
oui.
Ça.
Oui, oui.
Et puis, ben, je pense qu'il aimait ça. Évidemment, il trouvait que... moi, j'étais un peu bordel, si tu veux. Je n'étais pas organisé. Donc, ça aurait pu vivre plus longtemps, mieux organisé, Iceberg. Mais j'étais un peu... j'en faisais un peu à ma tête. Bon, alors ça, c'est les défauts, les qualités, j'imagine.
Oui, mais c'est une époque qui est difficile aussi pour le magazine, et c'est ce qui a en partie contribué à plomber Cro, c'est-à-dire l'arrivée de la nouvelle taxe.
Ah oui.
Mais, le fait aussi que, sporadiquement, il y a des crises de crise du papier,
oui.
Ça coûte cher,
oui.
Un magazine...
Il y a eu un creux dans la bande dessinée européenne aussi à ce moment-là,
oui.
Au début des années 90. Tu sais, Métal Hurlant est mort.
Tintin est mort.
Ouais, puis là, t'avais disparu déjà.
Ouais, il reste Fluide Glacial, il reste Spirou.
Fluide Glacial, c'est phénoménal.
Ouais. Ouais. Qui existe encore toujours aujourd'hui. Ben, là, c'est des forces de la nature. Ouais.
C'est fou.
Mais oui, et il y a aussi Cédric Lotte qui a débuté la publication de Spray,
ouais.
Qui a fait l'objet d'un album en 2020 aux éditions
ben,
Mosquito.
Ben.
Alors,
mais lui aussi est habité par une passion.
Hein. Ah, ouais, mais...
Mais c'est Cédric. J'y parle assez régulièrement parce qu'il est allé à Angoulême, mais je pense qu'il a une drôle de vision, mais en même temps, c'est ce qui fait sa force. Cédric, c'est un être assez exceptionnel, en fait.
Oui, puis c'est un artiste entier. Hein. C'est un
ah,
être
oui.
entier.
Oui, oui.
Au talent
il met les mains
immense.
Dedans.
Ah oui, oui.
C'est ça, il met les mains dedans.
Mais d'ailleurs, quand on lit
ouais.
Cédric, il y a, pour moi comme lecteur, je trouve qu'il y a une connexion au cœur directement. Il y a une telle... Autant Bouchard, on est dans l'intellect, ouais. On est dans le deuxième degré, on est dans le clin d'œil, ouais, aussi, beaucoup, ouais, avec la lectrice, le lecteur, de, ouais, dire on est dans le deuxième degré, parfois même dans le troisième. Ouais. Alors que là, Lotte, pour moi, c'est une connexion directe au cœur.
Oui, absolument. Mais c'est un grand sensible, c'est un grand émotif aussi.
Ouais.
Très, très sensible, très, même fragile, je dirais. C'est vrai que ça paraît pas comme ça parce que c'est un grand, c'est un géant.
T'sais. Oui, oui, oui. Mais, oui, physiquement, il est assez imposant.
C'est ça.
Oui, oui.
Mais en fait, et puis c'est un gars. Écoute, moi, quand je l'ai connu, en fait, il était dans le monde de la publicité. Puis ce qu'il a aimé, en fait, quand on s'est rencontrés, parce que moi, j'organisais parallèlement les bandes dessinées en direct Foufoune.
Oui.
Et c'est là qu'il a commencé à embarquer, en fait, à peu près en même temps qu'il m'a proposé des bandes dessinées. En fait.
D'ailleurs, il y a eu un numéro que tu m'avais montré. Il y a un numéro inédit, si on veut, d'Iceberg, qui a été réalisé.
Oui.
Lors d'une soirée.
Mais ça, c'est la première période.
Oui, ça, c'est la première période. Donc, l'immense numéro.
Oui. Je ne revenais pas que ça existe encore, cette affaire-là. Je ne me rappelais même pas que ça avait existé. En fait, je pense que c'est Jean-Pierre Leblanc qui m'a dit j'ai un numéro que je pourrais te montrer. Je fais, OK. J'arrive, il me montre ça, mais je dis, waouh, t'as trouvé ça. Mais c'est toi qui me l'as donné.
Et c'est énorme, hein, pour le bénéfice des auditeurs, auditrices, c'est énorme, là.
Ah oui, c'est, je dirais que c'est minimum un pied de large par presque. Un pied et demi de haut, au moins. Presque deux pieds. Là. Ouais, c'est gros.
Et il n'existe qu'un seul exemplaire.
Mais oui, ça a été fait en direct à la main par tous les auteurs. Dont Valium, dont Michel Groslo.
Mais là, il faut reproduire ça. Là. Il faut.
Il y a quelqu'un, je sais, qui peut le faire éventuellement, Francis. Ouais. Mais je me dis, bon, quand ce sera le temps, tu sais.
Mais c'est extraordinaire.
Je devrais peut-être le donner, s'il existe un genre de musée à un moment donné, peut-être je le donnerais.
C'est sûr qu'il y a des institutions qui seraient...
Mais il faudrait que ce soit visible. Il ne faudrait pas que ça reste enfermé dans un...
Non, à ce moment-là, je sais qu'il y a la BANQ qui archive et numérise.
C'est fragile. C'est numérique.
Mais à cette taille-là, donc, on ne peut pas passer ça dans un scanner.
Non, c'est ça.
8,5 par 11, là.
Parce qu'en plus, il y aurait un travail de retouche, parce que si tu veux, des fois, il travaillait avec des feutres et ça traversait.
Oui, puis le feutre aussi, avec le temps.
Ouais, en plus.
Il finit par disparaître,
ouais,
détériorer. Oui.
Ouais.
Évidemment, tu as sorti dernièrement un remix,
ouais,
miniature du premier numéro avec entre autres Sortie 13.
Ouais.
Encore une fois, on est dans un tirage très confidentiel.
Ah oui, celui-là, oui. Parce que je vais en faire un. Ça, je dirais que c'est le pré-tirage pour voir comment ça sortait.
Ouais.
Et je veux le retirer à 100 exemplaires, puis ça se peut que la maquette bouge un peu à l'intérieur. Parce que, par exemple, la première histoire d'Iceberg, je la montrerais peut-être différemment parce que c'est dur à lire, en fait.
Écoute, moi, j'ai des yeux de vieux monsieur.
Ouais.
Hein? J'ai des foyers. Et puis, je t'avoue que ton Sortie 13, dans le format actuel, tu sais, j'ai travaillé pour le lire.
Ça faisait partie de la proposition. Tu sais, c'est iconoclaste.
Oui, mais tout à fait. Alors, autant t'as un numéro inédit qui est énorme,
ouais,
que là, on tombe... Donc, en plus, évidemment, comme c'est issu de la contre-culture, tu t'en tiens pas à un format. Ça serait quand même bête un peu.
C'est aussi... L'aspect... Moi, j'ai pas peur de l'aspect ridicule, mais pas ridicule, mais dérisoire. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est, pour moi, ça, c'est un geste... J'allais dire un statement, comment on dit en français?
C'est un énoncé, c'est une affirmation.
Ouais, c'est ça, c'est pour dire... Et puis c'est iconoclaste, paraissant, parce que je suis un peu iconoclaste sur les bords, même encore aujourd'hui, là, parce que j'aime bien justement... c'est un objet, en fait, beaucoup plus qu'un petit magazine.
Ouais.
Oui, ça se lit, tout ça, mais c'est plus pour l'idée. Moi, je la regarde, puis ça me fait triper, c'est de voir un petit machin comme ça... En fait, j'ai la même émotion que j'avais quand j'ai fait le petit il y a 38 ans. Là.
Oui, on le sent d'ailleurs. Et c'est ça qui est fou, hein? Alors qu'on est en plein réchauffement climatique, eh bien, ce iceberg refuse de fondre.
Absolument.
Hein? Il revient. Et donc là, la question est la suivante. Pourquoi rééditer Iceberg en 2024?
Eh bien, ça, c'est une bonne question. C'est parce que je me suis dit... En fait, j'ai réalisé que ça faisait 40 ans, premièrement, le premier.
Mm.
Et aussi justement par rapport au fait que je disais que je ne sens pas d'école. Et c'est aussi parce que je trouve que la pandémie, là, ce que je trouve que ça a fait mal, c'est pas croyable. Socialement, ça a fait mal au-delà de ce qu'on réalise vraiment. Il y a eu des cassures sociales qui sont irréparables. Puis moi, je me suis dit, tiens, parce que Iceberg, si tu remarques, entre la première et la deuxième période, il y a un genre d'évolution, j'ose dire. Et là, je veux pousser plus loin dans le sens, je me dis, mais parce qu'aujourd'hui, tout est bon pour se mettre en opposition à quelque chose. Mm-hmm. Si on faisait le contraire, je te demandais, qu'est-ce qui nous unit?
Ouais.
Alors évidemment, ça a l'air vague comme ça, mais si mon projet se déroule comme je veux, j'ai l'intention, en fait, de non seulement de suggérer ce thème-là, mais d'en discuter aussi. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément une réponse homogène. Je veux pas... en fait, je veux rien d'autre que ce que les gens ont à proposer. Ce qui les inspire là-dedans. Parce que, comme je te dis, par exemple, tu sais, j'en reviens au début de Tintin, Spirou et Pilote, il y avait cet esprit-là, sans que ce soit dit, mais il y avait un esprit éditorial, rédactionnel.
Oui, il y a un esprit de corps, un esprit de troupe.
Oui, ça se sentait, tu sais, Pilote, tu disais ça. Même Spirou, même Tintin, en fait, chacun a son style, là, mais... puis là, c'est peut-être le plus remarquable, là, parce qu'il y a Goscinny et Charlier, là, mais, ouais. Mais Spirou n'était pas en reste, il y avait aussi, avec surtout avec Gaston, justement, bon, Tintin, c'était un peu plus, peut-être un peu moins comme ça, mais encore là, parce que je ne m'en souviens pas clairement, mais par contre, puis là, ça, je m'en souviens. Et alors, je me suis dit, mais tiens, c'est ça que j'ai envie de sentir aujourd'hui, parce que je ne le sens pas. Je le vois nulle part, en fait. Peut-être que je ne le vois pas tout non plus. Ça, c'est bien possible. Il faut dire qu'il n'y a plus de magazine, pour ainsi dire, déjà au Québec. En tout cas, il me semble que je n'en vois pas.
Ben, il existe... puis là, je ne veux pas tomber dans un éditorial. Mais il existe une revue qui s'appelle Planche.
Ah oui, t'as raison.
Mais qui paraît... mais qui n'a pas un rythme soutenu de publication, qui ne correspond pas vraiment. L'idée, je pense, aussi, dans Planche, c'est de rassembler des gens, forcément.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ça, un magazine. Mais on n'est pas dans... encore là, on n'est pas dans la pérennité. Donc, effectivement, on peut affirmer qu'un magazine à proprement parler de bande dessinée au Québec, il n'y en a pas, puis ça fait longtemps qu'il n'y en a plus.
Mais il faut dire que le marché a changé. Et pourtant, les maisons de la presse, c'est plein de magazines. Tu sais, on disait que ça allait disparaître, mais jamais de la vie. J'ai jamais vu autant de magazines.
C'est-à-dire que le magazine a vraiment subi une transformation majeure. C'est que la manière dont moi je vois ça, avant, un magazine, ça s'adressait à tout le monde.
Ouais.
Et là, il y a eu un inversement. Il y a eu un inversement avec la mondialisation, avec la disparition des indépendants. C'est que là, tout à coup, on tombe dans l'hyper-spécialisation. Ouais. Donc là, tout à coup, le magazine, il y en a des magazines québécois, là.
Ouais.
Superbe facture, papier, graphique. Donc oui, mais c'est ultra spécialisé.
Ouais,
donc là, tout à coup, tu sais, par exemple, on reprend Cro-Cro, quand quelqu'un le lisait, un exemplaire de Cro était lu par 4, 5, 6 personnes. Alors qu'aujourd'hui, un magazine, c'est plus ça. C'est on le prend pour soi,
on
le parcourt et puis on le place dans sa bibliothèque ou dans une boîte et c'est ça, là.
Ouais. Ils ont réessayé, Cro. Hein. Hélène, elle me disait que le... Je sais pas si c'est elle qui me disait ça, que le deuxième, c'est une question de distribution. Mais je me demande si c'est pas plutôt une question...
Non, mais c'est le problème aussi. Le deuxième, c'est que la pandémie est arrivée le mois de la sortie du deuxième.
C'est ça.
Donc, février 2020.
C'était comme renombré à enlever tous les magazines. Ça, c'était pas...
Non. Donc, Cro a fait une tentative de retour.
Ouais.
C'était très chouette, d'ailleurs, parce que ça permettait de revoir des anciens revenir. Mais aussi, ils avaient déjà commencé à ouvrir leurs pages à des nouvelles générations,
tu sais. Ouais.
Mais ça coûte excessivement cher produire un magazine, tu le sais.
Ben, mais c'était pas Québécois qui était avec eux?
Oui, Québécois est derrière ça, mais... Je veux dire, Québécois connaît aussi... fait face aussi à un vent assez difficile, comme tous les médias, aujourd'hui. Mais donc, c'est dans l'ADN d'Iceberg que d'assembler des gens... Et comme t'en parlais, comme tu l'évoquais tantôt, c'est au-delà de la bande dessinée et de la publication. Hein?
Oui.
C'est dans le happening, c'est dans la rencontre des autres,
absolument.
C'est multidisciplinaire. Donc, est-ce qu'on serait en droit de s'attendre à un ultime retour d'iceberg dans un format quelconque où, là, tout à coup, on pourrait voir autant du... On pourrait autant côtoyer du Obom, du Cédric Lotte, du Bouchard.
C'est mon souhait.
C'est ton souhait.
C'est là-dedans que je travaille dans cette optique-là. Mais maintenant, comme tu sais, il y a des questions de financement et tout ça. Mm-hmm. Alors, je suis dans des démarches. Est-ce que ça va aboutir? J'en ai aucune idée. Mais j'ai bon espoir. Mais bon, l'espoir, c'est tout ce que je peux avoir pour l'instant. Là, je suis dans un genre de première étape. Si cette étape-là répond positivement, ben là, j'ai d'autres idées pour la suite, évidemment, pour... Mais il faut, c'est conditionnel de cette étape-là. Sauf que là, quand même, je trouve que ça sent bon. Mais encore une fois, ça a beau sentir bon, tant que je n'ai pas l'assurance, ouais. Si tu veux, c'est spéculatif.
Et à cette étape-ci, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça serait quoi les plans? Est-ce qu'il y aurait de la réédition à l'intérieur? Non, pas du tout.
Non, je veux que du nouveau.
OK, donc on regarde vers l'avant.
Ah oui. Parce que je pourrais, parce que je suis sûr que trois quarts des gens n'ont jamais lu les premières moutures d'Iceberg. Parce que, encore une fois, c'est même la seconde période, même si j'étais édité, il me l'a dit à la fin, il dit, si j'en vendais 300 à travers le Québec, c'était beau, là. Même si je suis dans toutes les zones de la presse.
Hey, c'est fou, pareil.
Ouais. Mais parce que, tiens, encore une fois, à l'époque, quand il y avait un creux de la bande dessinée, et comme je le mentionnais un peu plus tôt, il y a un lectorat de bande dessinée, mais qui est très exigeant. T'sais. Et, enfin, à l'époque, en tout cas, parce que... Mais encore aujourd'hui, je pense... bon, maintenant, ça s'étend, là, parce que je vois qu'il y a des publics qui...
Mais il y a quand même... Moi, je le remarque dans mon travail de chroniqueur, là... Ça fait depuis. En fait, j'écris pour le Journal de Montréal, de Montréal depuis 2011. Moi, je remarque qu'une nouvelle génération de lectrices, de lecteurs, beaucoup plus ouverte, je trouve.
Il faut dire que les sujets abordés aussi sont plus, pas plus matures, mais oui, plus matures, ça c'est sûr, mais aussi plus diversifiés. C'est moins. Parce que.
C'est moins ciblé qu'à l'époque.
C'est ça.
Avant, à l'époque, quand on parlait des grandes années de Crow, on était beaucoup dans l'humour.
Ouais.
Puis la contre-culture à côté, se revendiquait d'une bande dessinée, en tout cas d'une volonté de présenter et de produire de la bande dessinée plus adulte.
Ouais.
On n'est plus... Je pense qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'on n'est plus vraiment dans cette préoccupation-là, je pense. De dire « viser une bande dessinée adulte ». Parce que la bande dessinée au Québec, comme partout ailleurs, elle est multiple. Puis quand on regarde aujourd'hui, avec des structures éditoriales comme Pow-Pow, comme évidemment la Pastèque qui était là dès la fin des années 90, là tout à coup, Drawn and Quarterly, là tout à coup, il y a vraiment une offre qui est vaste.
Puis aussi, je voulais quand même mentionner une chose, c'est que moi, dans ma jeunesse, la bande dessinée, c'était pour les gars. Beaucoup. Dans ma jeunesse à moi. Hein,
oh oui.
Et l'arrivée des femmes, ça a beaucoup changé quelque chose. Entre autres, c'est drôle parce qu'un gars comme Fumeur plaisait plus aux femmes qu'aux hommes.
Ah oui?
Dans, en tout cas, moi, dans mon entourage, c'était les femmes qui aimaient Fumeur. Le génie des
affaires. Ah, ce qui est une extraordinaire série.
Oui. Et puis, mais alors, en plus, c'est l'arrivée des femmes en tant qu'autrices. Ça a beaucoup changé quelque chose aussi dans le choix des sujets, dans l'approche. Tu sais, je regarde quelqu'un comme Aude Nermillot, là, qui est... Alors ça, c'est une autrice... elle a une importance, évidemment, mais non seulement, mais je veux dire, ça enrichit le média, mais il n'y a pas que elle, il y en a plein, là.
Juste au Québec.
Julie Doucet
a engendré.
Ah oui. Julie, c'est assez fou, quand même,
Puis encore là... Ça, pour moi, Julie Doucet, c'est une ouverture sur les femmes en bande dessinée, mais pas que. Tu sais, je veux dire, un auteur comme l'Américain Chris Ware se revendique de Julie Doucet. Donc, en fait, Julie Doucet, ça a été une porte ouverte sur beaucoup plus... Ouais. C'est beaucoup plus profond que le genre, que la question de genre.
Je dirais que c'est pas une BDiste, mais en fait, elle fait de la BD, mais je pense que c'est une artiste visuelle.
Oui.
Qui a choisi à ce moment-là la bande dessinée.
Mais pas que, c'est ça. Oui, voilà. Mais oui, qu'elle a choisi entre autres ce médium-là.
Ouais.
Ou l'a-t-elle vraiment choisi? Peut-être, encore là, la question se pose, mais en tout cas, elle a choisi à un moment de prendre ses distances de ce médium-là.
Ben oui. D'ailleurs, je l'avais rejoint pour mon projet, puis elle m'a dit que c'était pas exclu, mais qu'elle avait besoin de temps. Donc, ouais. Moi, à ce moment-là, je dis, ben, OK, regarde, je reviendrai avec. Quand ça se développe, ouais. Si ça se développe, je reviendrai.
Mais c'est vrai que. Il y a un bassin de lectrices beaucoup plus conséquent aujourd'hui qu'à l'époque.
Si je regarde juste la réponse, par exemple, avec Christian Guérin. Mm-hmm. C'est fou, là. Bon, c'est vrai que il a une boîte, il est tombé sur une boîte qui met le paquet sur la promotion et tout ça. Mm-hmm. Mais enfin, je vois les réactions de gens qui, à prime abord, j'aurais pas cru qu'ils seraient intéressés à la bande dessinée. Et là, entre autres sur son livre sur DD, là, que j'ai lu. Mais alors, je vois les réactions et je me dis, ah, ben. Parce que c'est le sujet aussi, ça, c'est intelligent, là, de prendre un sujet comme ça. Parce que là, évidemment, ça va toucher les gens, vu que Bédé, c'est un dieu. Enfin, je veux dire, c'est une icône, c'est une légende. Ouais. Alors là, c'est bien vu, là, parce que.
Oui, mais ça, c'est un virage qui a été quand même amorcé il y a plusieurs années. Je veux dire, Michel Rabagliati est allé.
C'est vrai, Paul.
Décloisonné, est allé rejoindre un lectorat extérieur au noyau dur du lectorat de la bande dessinée au Québec. Là.
Ouais, d'ailleurs, oui. Parce que lui, en plus, il a trouvé un... C'est là que tu vois qu'il a un fond graphiste, en fait, parce qu'il a su trouver un style très lisé, mais pas du tout agressant.
Non.
Et ses récits, c'est un bon conteur. Il faut lui donner ça, Michel. Il sait raconter des histoires.
Oui, puis il sait raconter des histoires dans lesquelles les gens, les lectrices et lecteurs, se reconnaissent.
Parce que c'est humain, ben oui.
Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est des gens. Il y a beaucoup de lectrices, lecteurs qui ne viennent pas du tout du milieu de la bande dessinée. Ouais. Michel Rabagliati a fait lire à plusieurs lectrices et lecteurs une bande dessinée pour la première fois depuis leur enfance, depuis les Schtroumpfs et les Tintins. Ouais. Les...
Ça, c'est un autre truc, hein, l'idée que la bande dessinée, c'est pour les gamins et pour le monde. Mais ça, ça commence à être dépassé maintenant.
Ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que, de toute manière, on ne refera pas l'histoire. La première écriture à laquelle l'humain est confronté, c'est l'image.
Ouais.
Et d'ailleurs, l'homme a d'abord appris à raconter avec l'image. L'homme des cavernes, je veux dire, il n'écrivait pas des...
Non, ça, c'est sûr.
C'est ça, il n'écrivait pas des lettres, hein, il dessinait. Donc, évidemment, un enfant va entrer en contact souvent avec la lecture par le truchement de la bande dessinée.
Ouais.
Mais dans l'esprit de plusieurs personnes... on relègue ce médium-là à la jeunesse alors qu'on fait fausse route. Je veux dire, mettez Mouse dans les mains d'un enfant de 5 ans. Là. Mouse d'Archipiegelman, ça ne s'adresse pas à cet enfant-là.
Non.
Là.
Non.
Donc oui, il faut s'éloigner de cette idée préconçue-là. Oui,
ben ça. Moi, je crois quand même que là, on vit une période qui est intéressante. Ben, justement, comme je te disais, dans les années 90, c'était assez aride pour la bande dessinée. Il y a eu un creux là, avant que l'association arrive. Ou...
Ouais. Ben, la disparition de Crow en 95, ça, moi, je me souviens, à l'époque, je m'intéressais déjà à la bande dessinée et j'allais dans différents événements. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré pour la première fois Valium. Il travaillait au Fofone électrique.
Ben,
J'avais aucune... Et j'avais pas fait le lien entre ce type-là et celui qui faisait les gros albums lithographiés. Mais donc, moi, je me souviens, là, à la fin de Crow, ça a acheté une douche froide sur le milieu. Parce que là, tout à coup, les gens perdaient une des seules opportunités qui restaient d'être publiées, d'être diffusées à grande échelle.
Ouais. Mais il n'y avait pas Safari à ce moment-là?
Oui, il y avait Safari à ce moment-là, qui était situé à Québec, qui était déjà bien en selle. Bon, évidemment, Safari, avec la mort de Crow, est allé piger... est allé chercher, ça n'a pas duré longtemps. Bon, ils ont pris Gaboury, Serge Gaboury, mais sinon, tu sais, Jean-Paul Aide a publié un petit peu Godbout-Fournier avec Michel Risque, un petit peu, ils ont publié une histoire de Red Ketchup, mais je veux dire, sinon, ils n'ont pas réussi à retenir ces gens-là, et donc ça a acheté comme un froid.
Ouais,
Puis bon, il faut le dire aussi, géographiquement, Québec-Montréal, je veux dire, c'est quand même un 200 quelques kilomètres de distance.
Ouais.
On est allé au début d'Internet 1.0.
Ouais, ouais, ouais.
Donc...
je me rappelle, on montait le numéro à la main.
Et donc, moi, je me souviens très bien, tu sais, les éditions, les gars de la Pastèque me racontaient en entrevue qu'ils avaient assisté, et j'étais là, à une table ronde au Salon du livre de Montréal en 96-97, où les gens disaient « Mais c'est fini la bande dessinée au Québec. Là.
Ah ouais,
on a perdu Crow, c'est terminé. » Et c'est ce qui a, entre autres, motivé les gars de la Pastèque à se commettre comme éditeur et à oui, lancer leur structure. En fait, ils étaient libraires. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Oui. Ils étaient à la base libraires et par la suite, ouais, ils ont eu des ils ont été copropriétaires là. Bon, c'est une aventure qui s'est malheureusement, oui, avec Jean Pierre Moreau, oui, ça s'est très mal terminé.
Ouais, ouais, ouais.
Mais bon, toujours est-il que la pastèque en quelque part a été une réponse à cette grisaille là à l'époque.
Réussi.
Oui, mais ça a pris du temps aussi avant que d'autres structures éditoriales, tu sais, Mécanique Générale.
Ouais.
Avec, bon, c'est un collectif d'auteurs de Philippe Girard, Jimmy Beaulieu, Éric Asselin et compagnie, Benoît Joly, Luc Giard.
Que j'ai découvert sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir la bonne auteur.
Ben non, parce que la bonne nouvelle, c'est que si tu as découvert récemment Philippe, rétroactivement, tu peux lire.
Ben oui, mais en fait, j'ai découvert avec le livre sur Corinne. Moi, j'essaye. J'essaie de partager ce qui m'anime. Et je pense que, tu vois, à date, j'ai eu des lettres d'appui d'auteurs, dont Jean-Paul, c'est vrai qu'évidemment, mais Pascal aussi, Philippe
Gérard,
je veux dire. J'en ai Louis Neves que j'ai essayé de retrouver.
Ah oui, hein? D'ailleurs, Louis Neves, est-ce qu'il dessine toujours?
Eh oui, il me dit que... Mais alors lui, il vit dans un autre monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas Internet. Tu peux juste le rejoindre par téléphone. Et mais j'ai son numéro, il m'appelle de temps en temps pour voir comment le projet va, puis là je le mets à jour. Tu sais,
parce que lui aussi c'est un talent phénoménal. Oui. Là.
Mais c'est un gars qui est particulier, Louis. C'est un. Tu peux pas le mettre en cage, personne, mais je veux dire, lui encore moins. mais il m'a dit qu'il travaillait sur un récit, puis il est même à proposition, on ne l'a pas creusé la proposition, là. Mais parce que je te demandais donc une lettre d'intention. De chaque auteur qui voulait participer. Et il avait trouvé une approche sur le thème à développer éventuellement, mais il avait saisi, tu sais. Puis Philippe aussi, en fait, Philippe, il m'a envoyé du matériel original, jamais publié, qu'il n'a pas fait pour ça, mais qu'il m'a dit qu'il pensait que ça cadrait avec l'idée. Et c'est un beau récit, en fait, qu'il m'a envoyé. Et c'est vrai que ça rejoint... Alors, c'est pour ça que je veux discuter un peu avec les auteurs, parce que c'est pas obligé d'être pris au pied de la lettre, si tu veux. C'est-à-dire que si ça rejoint indirectement le thème, c'est correct. Parce que l'idée, c'est pas de faire un truc uniforme. C'est plutôt d'offrir un bouquet, bien sûr, autour du thème, si possible.
Ouais.
Mais c'est implicite, le thème, parce que finalement, quand on fait une gang ensemble, ben, c'est ça qui vous unit. D'ailleurs, je fais un gag là-dessus. J'ai fait une bande dessinée de présentation, tu sais, où est-ce que... Je mets en scène mon ami Bruno Rouillère. C'est lui qui l'a dessiné, en fait.
Et... Autre grand talent.
Ah oui, Bruno, c'est fou. Bruno, il a un livre à écrire. Mais, et parce que je vous dis que, dans le fond, ce qui nous relie, c'est la reliure. C'est pas juste pour, par dérision, parce que, dans le fond, finalement, à la fin, ben oui, c'est ça. Ça va être ça, à la fin, finalement.
Parce qu'Iceberg doit demeurer quand même anticonformiste.
Oui, mais alors c'est ça. Bon, dans la deuxième période, ce qui est vraiment une période charnière, parce que autant la première période, c'est totalement iconoclaste, c'est fuck you tout le monde et tout ça, autant la deuxième, bien qu'il y ait un relent de ça, il y a un désir de rejoindre les
lecteurs.
Il n'y avait pas dans la première.
Non.
Pas dans la deuxième, c'est fuck you everybody. Et tandis que là, il y a quand même, d'ailleurs, comme je te disais, je suis assez fier, on était à Studio Libre, on a fait L'Enfer, c'est nous autres, on a fait La Bande des Six. Pour moi, c'était super. Je me demande encore comment j'avais réussi ça à l'époque. Là, mais puis, eh ben, on avait eu des bons articles. Enfin, donc, on avait un succès d'estime, à défaut d'avoir un succès dans les ventes. Et ce qui a fini par tuer ça, en fait, c'est mon incompétence totale au niveau de la gestion et le fait aussi que, parallèlement, je commençais une carrière musicale. Et donc, l'énergie, tu ne peux pas la mettre partout à la fois.
Non.
Et si moi, je partais, il n'y avait plus. Ça ne tenait plus. Ça tenait entièrement sur mes épaules, en fait. Et c'est ça, c'est un défaut, parce que c'est là j'aurais dû apprendre. C'est pour ça que je te dis, au niveau organisationnel, c'était n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que ça ne pouvait pas me survivre à ce moment-là.
Mais là, rassure-nous, là.
Oui.
Ton côté organisationnel, tu as quand même travaillé un peu dessus depuis?
Oui. Non, écoute. J'ai enlevé quelques irritants de ma vie, premièrement. Je vis plus tard, là. Mais sinon, j'ai encore du chemin à faire, parce que ça part encore, quelque part, je suis un poète, moi, tu sais, je veux dire, c'est ça fondamentalement que je suis avant d'être un musicien, avant de, bon, c'est une approche, j'ai une approche comme ça, on pourrait dire presque naïve à la limite, parce que, tu sais, il y a une phrase qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, mais c'est un peu ça aussi, tu sais, ben, ça exagère un peu, là, mais je veux dire que ce qui me motive, c'est comme un gamin là, qui veut faire ça, montrer quelque chose de beau, là, tu sais, puis... par contre, j'ai essayé de faire une équipe pour m'entourer, une équipe rédactionnelle. C'est peut-être là où je suis plus...
Ben, c'est bien, ça.
Ouais. Mm. Et puis, tu vois, si j'ai ce que je veux, il va falloir que je sois très drastique dans ma manière de gérer le budget. Parce que ça, c'était une affaire que je ne savais pas faire à l'époque. Puis j'ai appris à la dure avec le temps, pour mes affaires personnelles, premièrement. Mm-hmm. Puis j'ai appris dans le business aussi que si tu n'es pas ton affaire, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Alors, c'est... Bon, ça, on apprend des leçons de la vie.
Oui.
C'est très bien comme ça, d'ailleurs. Mais donc, c'est ça. Alors, ce que. Tu sais, comme par exemple, j'ai rejoint un gars qui s'appelle René Saint-Pierre, qui est un archiviste, qui, entre autres, a travaillé pour la Fondation Armand Vaillancourt. Et lui, je lui ai demandé de m'assister parce qu'on va. Dans le projet que j'ai, je veux refaire un genre de. Ça ne s'appellerait pas comme ça, mais que sont-ils devenus? Parce qu'il y en a qui ont continué dans la bande dessinée, mais il y en a qui n'ont pas continué dans la bande dessinée. Il y en a comme Grégoire Bouchard, dont on connaît la suite.
Ouais.
C'est intéressant de savoir, parce que Grégoire, par exemple, c'est un gars, ce qui lui permet de faire ça, d'une part, c'est un travail qu'il a, mm-hmm. de jamais lâcher, et qu'il arrive à avoir des subventions avec le temps. Mais c'est quand même assez remarquable, parce que c'est un travail de moine, ce qu'il fait. Je me dis, le gars, quand même... Il fallait qu'il soit assez déterminé pour plonger là-dedans comme il a plongé, tout en étant absolument pas assuré d'un succès, même non seulement ça, mais je crois pas qu'il fasse quelque argent que ce soit avec ses bandes dessinées. Je pense pas. Parce que tu vois, quand je suis allé au lancement, j'avais acheté son livre, ok, c'était 60$. Parce que ça, c'est un autre truc, mais c'est un autre sujet. Mais s'il en a vendu 300, je suis sûr que c'est beau. Là.
Alors, non seulement ça, mais bon, il est édité chez Moelle Graphique, qui est un éditeur qui ne dépend pas de subventions.
Non,
là,
c'est ça.
En plus.
Ouais.
Donc, c'est sûr que tout à coup, chaque livre est une prise de risque.
Ouais.
Et bien que ce soit distribué aux quatre coins de la province, parce ouais. qu'ils ont un distributeur, ben c'est sûr que il s'en vend moins qu'une valeur sûre comme un Paul,
mais,
c'est
mais
sûr.
Tu vois, ça, c'est un autre truc qui, moi, me scandalise. Parce qu'en plus, moi, je ne colle pas sur l'art. Mais il y a plein de bandes dessinées qui m'intéressent. Mais vu le prix, là,
ouais.
je peux pas, tout simplement. Là, puis je me dis, si moi, je peux pas, comment tu veux intéresser du lectorat avec des livres à 40
$? Bon, c'est sûr que le dollar culturel, c'est pas le premier injecté. Hein? On va se nourrir, on va se véhiculer, ouais. on va s'habiller, on va faire bien des choses.
C'est là où c'est important ouais. d'avoir de tendre une main vers le lecteur.
Ouais.
Je pense, c'est pour ça que tu me demandais si je serais toujours... Moi, je veux pas... C'est pas une question de quitter la contre-culture, mais c'est plutôt d'aller
ouais.
vers des gens, tu sais, les séduire, en fait. C'est ça qui serait différent d'avant.
Et donc, en fait, tu reviens au fondement même d'un magazine de bande dessinée, c'est-à-dire, ou en tout cas en prépublication, c'est de présenter une offre
ouais.
et de dire au lectorat, et ça, c'est à moindre coût, et de dire au lectorat, ouais. T'aimes Grégoire Bouchard, ben tu peux aller acheter c'est son ça. Album ou emprunter son album à la bibliothèque.
Ouais.
Donc, en fait, être à la tête d'un magazine ou d'une publication, en tout cas, c'est d'abord d'être un entremetteur, une entremetteuse.
Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est la même raison pour laquelle je faisais des bandes dessinées en direct, que je faisais des événements. Et les lancements, c'était inspiré de Crow qui faisait des lancements directement. C'est après nous. Le bande dessinée en direct, c'est inspiré des peintures en direct que François avait créées avec des peintres.
Oui.
C'est une formule avec des musiciens, puis les gens sont en direct. Je me rappelle toujours de Réal Godbout qui était venu participer à des événements, qui suait à grosse goutte parce qu'il n'était pas à l'aise avec le fait de faire du direct. Je pense que c'est un gars qui a une certaine
ouais.
pudeur, une certaine gêne, et donc il est plus à l'aise chez lui.
Pourtant, il avait quand même été de la première équipe, de la première mouture de l'impro BD. Oui, oui, oui. Dans les années
85-86,
ouais, Pierre Fournier avait collaboré là, à lancer ça, cette idée de faire de l'impro BD. Et Réal en était, mais oui.
On a eu Vittorio, il est venu. Vittorio, c'est trop, là. Parce que Vittorio, j'avais réussi à avoir son téléphone, je ne sais plus comment.
Puis ça a été quelque chose pour le rejoindre parce que je tombais sur des drôles de répondeurs. Puis un jour, j'arrive à l'avoir au bout du fil. Puis je lui dis, est-ce que vous seriez intéressé? Elle me dit, ah oui, oui, je vais venir. Quand je mets son nom sur la fiche, puis il ne vient pas. Mais il me rappelle, ou c'est plus moi qui l'ai rappelé, il me dit, écoute, je t'ai fait faux bon, fait que je vais venir au prochain, puis il est venu.
Ah oui, hein, quand même, Vittorio, ouais. c'est pas
il
banal.
Il signait sur les jackets, il faisait des petits dessins sur les jackets. Il me dit, hey, fais-moi un dessin, fais-moi un dessin. Là, ouais, c'était trop, puis c'était un fascinant personnage, Vittorio, là, chaleureux, là, généreux lui-même.
À qui on doit notamment l'iconographie ouais. de la mascotte de Juste pour rire. Ouais.
Et d'ailleurs, c'était un gars, malheureusement, je crois, qui n'était pas à l'argent du tout. Et je pense pas qu'il a eu ce qu'il méritait financièrement pour le travail qu'il faisait. Mais bon.
C'est sûr qu'avec l'ancien patron de Juste pour rire, dont je vais taire le nom, c'est un peu comme Voldemort
ben oui,
hein, dans Harry Potter.
Ouais.
Ça, on pourrait passer des journées entières à raconter des anecdotes. Mais oui, mais quel grand talent, Vittorio.
Moi, je me rappelle encore les affiches de l'Opéra de Montréal.
Ah oui, oui, oui.
Parce qu'à cette époque-là, moi, j'affichais avec donc, mon ami Baudouin-Ward, qui a la publicité sauvage, et c'est lui qui avait les contrats de l'Opéra, et on recevait ces affiches-là. C'était comme... Wow.
C'est un art qui se perd aussi, hein?
Ah oui, c'est bien des affiches ouais. maintenant, là. Ça arrive qu'il y en a encore des belles.
Oui.
Mais c'est... Ouais. Ben, c'est parce que faut dire qu'on est tellement assaillis de toutes parts que les gars, ils cherchent l'efficacité. Ça, c'est très américain, d'ailleurs, comme approche. Mm. L'efficacité plutôt que l'esthétique.
Ouais.
Moi, je me rappelle, plus jeune, je la voyais la différence entre la publicité en France ou en Italie ou en Angleterre et celle américaine. C'est deux mondes. Mm. Ouais. Et nous, ben, on est en sandwich, c'est ça. Entre les deux.
Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite, Thibault, pour la suite des choses? En tout cas, nous, je nous souhaite une renaissance, une troisième mouture
ben, moi,
d'iceberg.
Aussi, j'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien parce que si ça marche, là. Parce que là, évidemment, ça va être un numéro unique. Hein. C'est,
ouais.
c'est, genre, le projet actuel, c'est ça. Mais que j'aimerais bien voir s'il ne peut pas ouvrir quelque chose après. Tu sais, s'il n'y a pas des gens intéressés, dans, justement au niveau structure, entre autres, au niveau pérennité. Est-ce que c'est possible, admettons, de... Parce que tu vois, tu parlais de planche tout à l'heure. Mais planche, moi, il ne me rejoint pas. Pas que ça ne me rejoint pas. Mais lui, il ne me rejoint pas.
Mm-hmm. Je comprends très bien la nuance. Oui, oui.
C'est ça, c'est que... C'est, pour moi, c'est quelque chose de c'est une niche. Je ne vois pas quelque chose qui essaie de rejoindre les gens. Mais par contre, ça se peut qu'ils le fassent.
Mais en fait, ils rejoignent leur lectorat.
Ah, c'est ça, oui.
Mais
c'est qui leur lectorat?
Mais oui, alors là, la question mérite d'être posée. Mais là, toi, dans ton cas, on sent très bien que cette main tendue-là, c'est que tu veux beaucoup plus largement rejoindre des gens.
Ben parce que je pense qu'un lectorat, ça se crée. C'est pas vrai que les gens ils savent ce qu'ils veulent toujours. Puis je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Je pense que si tu leur proposes quelque chose de bien, de clair, de riche, pas du contenu, ben je pense que ça va intéresser les gens, même qui ne sont pas habitués à la bande dessinée. Puis d'ailleurs, j'avais des idées, moi, comme ça. Je trouvais qu'un coup de génie, que le gars qui a fait des ploufs, là. Je ne sais pas si c'est exact, mais moi, on m'avait raconté que lui, il avait choisi de distribuer dans les supermarchés son livre. Et donc, tout d'un coup, il trouvait un autre lecteur, parce que ce n'était pas des gens habitués à la librairie. Ça devenait un produit populaire.
Ouais.
Waouh! Ça, c'est génial. Tu sais, des idées comme ça, là, moi, j'en veux des idées comme ça, parce que c'est sûr, je peux aller chez Renouré, me mettre dans le kiosque, quoi que non, maintenant, ce sera plus possible, parce qu'il n'y a plus de magasin. Mais ça, je n'ai jamais vraiment compris la logique de ça. Là, je comprends la pandémie et tout ça, là, mais quel dommage de t'enlever une section complète d'un magasin.
Enfin. Oui, les temps changent. C'est sûr que le magazine ne vit pas ses fastes années, mais en même temps... comme on en parlait tantôt, c'est tellement devenu spécialisé qu'en même temps, il y a comme une espèce de transfert. Là.
Mais peut-être que justement, comme je te dis, les librairies, c'est bien tout ça, mais peut-être qu'il faut penser à un autre réseau de distribution. Par exemple, moi, je faisais une petite bande dessinée qui s'appelait Monsieur Chien. Je voulais l'éditer, je ne l'ai jamais édité, mais ça a apparu dans Ici, puis ça a apparu dans Axel Laurentide. J'en avais 80 strips. Et mon idée, c'était de le vendre dans les pet shops. Je me suis dit, hein, ça parle d'un chien. C'est dans les pet shops où je vais le vendre, pas à la librairie. Tu sais, c'est dans ce genre d'approche-là. Parce que, alors là, ce que je ferais, c'est que je ne sais pas encore comment je ferais, hein, mais c'est sûr que je serais dans la librairie quand même. Là. Mais j'aimerais ça essayer de réfléchir, de prendre le temps, là, de, une fois que je pense à rien d'autre, prendre le temps avec des gens qui vont discuter. Ce serait quoi les autres endroits où est-ce qu'on pourrait mettre inusité, là, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça, ça détonnerait sur le reste des produits. Tu sais, des panneurs peut-être. Des panneurs, il y a déjà dans les couche-tard, qui pour moi c'est une honte, les couche-tard, mais il y a déjà une section magazine. Enfin, c'est ça, je cogite là-dessus parce que faut aller le chercher, le lecteur. Faut pas de l'attendre, je pense.
Ben, c'est ce qu'on te souhaite, en fait. Et c'est ce qu'on nous souhaite aussi comme lectrices et lecteurs, ouais. Et surtout les nouvelles générations qui n'ont pas connu ces années-là et qui n'ont même pas connu la fréquentation d'une publication comme ça. Je leur souhaite...
Parce que c'est ça, quand il n'y a pas de témoin d'une époque, ben l'époque n'existe plus.
Ah oui, puis non, et Dieu sait que plus que jamais, on vit dans l'instant présent, hein, et sans égard au passé ni au futur.
Non,
hein.
C'est ça.
On est dans l'instantané.
Ouais.
Eh bien, ouais, je te souhaite vraiment, et je souhaite aussi que les institutions, si jamais elles sont à l'écoute, ben qu'elles appuient cette démarche-là, parce que...
Ben, on croise les doigts, en fait, hein, c'est tout ce qu'on peut faire, en fait. Puis sinon, aussi, en fait, je sais pas que j'attends rien, mais je continue à faire mes trucs. Si ça marche, ben c'est tant mieux. Mais si ça marche pas, ben écoute, dans la vie, là... Ça arrive qu'il y a des choses qui ne se concrétisent pas exactement comme tu le voudrais, tout simplement.
J'ai envie de te laisser en te disant que Iceberg n'a pas fondu son dernier mot.
Merci.
C'est boiteux comme
non,
jeu
non,
de mots,
bon, bon.
Mais j'aime à penser que qu'on est loin d'en avoir terminé avec Iceberg.
Écoute, je le souhaite ardemment.
Thibaut de Corta, merci beaucoup de ton temps et je te souhaite bon vent pour la suite des choses.
Merci, c'est bien aimable.
Pour suivre Iceberg, rendez-vous au facebook.com/iceberg.bd. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour me suivre, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.